Chapitre 3. Comment Dieu fait connaître son propos. Nous avons vu que le chapitre 1 présente les conseils de Dieu quant à l'assemblée, tandis que le chapitre 2 place devant nous l'œuvre de Dieu dans et envers les croyants pour accomplir ses conseils. Le chapitre 3 développe l'administration de la vérité de l'assemblée ou comment Dieu a donné à connaître aux nations cette vérité par le moyen de l'apôtre Paul. En comparant le verset 1 du chapitre 3 au verset 1 du chapitre 4, on voit clairement que le chapitre 3 est une parenthèse. Le chapitre 2 présente la doctrine et le chapitre 4 la pratique découlant de la doctrine. Entre la doctrine et la pratique, nous avons cette importante digression dans laquelle le Saint-Esprit place devant nous l'administration spéciale ou le service confié à l'apôtre. Dans le deuxième verset, ce service est appelé l'administration de la grâce de Dieu, et dans le verset 9, l'administration du mystère. Une administration est un service particulier. Ce service était de proclamer l'Évangile et de faire connaître la vérité parmi les saints. Dans le cours de cette parenthèse, d'autres grandes vérités en relation avec l'assemblée nous sont présentées. Versets 1 et 2. L'effet de la proclamation de la vérité de l'assemblée. Citation de l'Écriture. C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les nations, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous. Fin de citation. L'apôtre nous dit que l'effet immédiat de la proclamation de la vérité de l'assemblée a été de couvrir celui qui l'annonçait d'opprobre de la part du monde religieux. Cette grande vérité suscita en particulier l'hostilité des Juifs parce que, non seulement elle considérait Juifs et nations dans la même position devant Dieu, morts dans leurs fautes et dans leurs péchés, mais qu'elle n'élevait nullement les Juifs à une place de bénédiction au-dessus des gentils. De plus, comme la vérité de l'assemblée mettait de côté tout le système juif, avec son appel à l'homme naturel par le moyen d'un culte extérieur dans des temples faits de main, elle suscita l'opposition de ceux qui soutenaient ce système. Alors, comme aujourd'hui, le maintien de la vérité de l'assemblée, telle qu'elle a été révélée à l'apôtre Paul et telle qu'elle a été présentée par lui, implique de l'opprobre et de l'opposition de la part de ceux qui cherchent à maintenir une profession religieuse extérieure ou un système ecclésiastique selon le modèle judaïque. C'était donc l'accomplissement de ce service spécial qui consistait à prêcher l'évangile de la grâce de Dieu aux nations qui excita la malveillance des Juifs et valut la prison à l'apôtre. Selon l'estimation des Juifs, un homme qui osait parler de s'en aller vers les nations ne devait pas vivre. Actes 22, versets 21 et 22. Toutefois, Paul ne se considérait pas comme un prisonnier des hommes pour quelques méfaits, mais comme prisonnier de Jésus-Christ à cause de son service d'amour pour faire connaître la vérité aux nations. Versets 3 à 5. La vérité de l'assemblée donnée à connaître par révélation. Citation de l'Écriture. Comment, par révélation, le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots, d'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Fin de citation. Pour que nous puissions recevoir la grande vérité de l'assemblée sur une base d'autorité divine, l'apôtre prend soin d'expliquer qu'il a acquis la connaissance du mystère de l'assemblée, non par des communications d'hommes, mais par la révélation directe de Dieu, comme il le dit, « Par révélation, le mystère m'a été donné à connaître ». Cela répond à une difficulté qui peut surgir en relation avec la vérité du mystère. Lorsque l'apôtre annonçait l'évangile dans les synagogues juives, il invoquait invariablement les Écritures. Voir Actes 13, versets 27, 29, 32, 35 et 47, Acte 17, verset 2, etc. Et les Juifs de Bérée sont expressément approuvés d'avoir examiné les Écritures afin de voir si la parole prêchée par Paul était en accord avec elles. Mais aussitôt que l'apôtre annonçait la vérité de l'Assemblée, il ne pouvait plus se référer à l'Ancien Testament pour être confirmé. Ses auditeurs auraient sondé en vain les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. L'incrédulité des Juifs faisait qu'ils avaient de la peine à accepter de nombreuses vérités qui se trouvaient pourtant dans leurs Écritures, tels Nicodème qui ignorait la vérité de la nouvelle naissance. Recevoir quelque chose qui ne s'y trouvait pas et qui mettait de côté tout le système juif tel qu'il était décrit et qui avait été sanctionné par Dieu pendant des siècles, était pour des Juifs une difficulté insurmontable. De nombreux chrétiens ont de la peine à apprécier cette difficulté, du fait que la vérité de l'Assemblée est fortement obscurcie dans leur esprit ou même totalement perdue. L'Assemblée étant pour eux l'ensemble des croyants de tous les temps, ils sont prompts à trouver ce qu'ils croient être l'Assemblée dans l'Ancien Testament. Que telle a été la pensée d'hommes pieux est amplement prouvée par les titres donnés à divers chapitres de l'Ancien Testament dans certaines traductions. Mais si nous recevons la vérité de l'Assemblée telle qu'elle est présentée dans l'Épître aux Éphésiens, nous sommes tout de suite placés en face d'une difficulté qui ne peut être résolue qu'en reconnaissant que la vérité de l'Assemblée est une révélation entièrement nouvelle. Verset 5. L'apôtre appelle cette grande vérité qu'il a reçue par révélation le mystère. Et encore verset 4. Le mystère du Christ. En se servant du mot mystère, l'apôtre ne veut pas donner la pensée de quelque chose de caché, selon l'usage purement humain du mot. Dans l'Écriture, un mystère est une chose qui avait été gardée secrète jusque-là, qui ne pouvait être connue autrement que par révélation, et qui, une fois révélée, ne peut être saisie que par la foi. L'apôtre entreprend d'expliquer que ce mystère n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes dans les jours de l'Ancien Testament, mais que maintenant, il est révélé aux saints apôtres et prophètes du Christ par l'Esprit. Les prophètes mentionnés dans ce verset ne sont évidemment pas les prophètes de l'Ancien Testament, mais plutôt ceux dont il est parlé au chapitre 2, verset 20, « Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. » Dans les deux cas, l'ordre est « apôtre et prophète », non pas « prophète et apôtre », comme cela aurait été normal s'il s'était agi des prophètes de l'Ancien Testament. En outre, l'apôtre parle de ce qui a été maintenant révélé, en contraste avec ce qui avait été révélé autrefois. Verset 6. La vérité de l'Assemblée révélée. Citation de l'Écriture. Savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. Fin de citation. Après avoir montré que la vérité de l'Assemblée avait été donnée à connaître par révélation, l'apôtre, dans un bref passage, résume cette vérité de l'Assemblée et explique pourquoi il en est parlé comme du mystère. Il est clair que le mystère n'est pas l'Évangile. Celui-ci n'avait pas été caché dans d'autres âges, car l'Ancien Testament est plein d'allusions au Sauveur qui devait venir, même si ces allusions étaient bien peu comprises. Quel est alors le mystère ? Il nous est clairement dit au verset 6 que cette révélation nouvelle est que les nations seraient cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. Les nations et les Juifs sont faits cohéritiers non seulement dans le royaume terrestre du Christ, mais dans l'héritage qui comprend tant les choses qui sont dans les cieux que les choses qui sont sur la terre. Et de plus, les croyants d'entre les nations sont constitués avec les croyants d'entre les Juifs en un seul corps, dont Christ est la tête dans le ciel. Plus encore, ils sont coparticipants des promesses de Dieu dans le Christ Jésus. Les nations ne sont pas élevées au niveau des Juifs sur la terre, ni les Juifs rabaissés au niveau des nations. Les deux sont sortis de leur ancienne position et amenés sur un plan infiniment plus élevé, unis les uns aux autres, sur un terrain entièrement nouveau, un terrain céleste, en Christ. Tout cela est opéré par l'Évangile qui s'adresse à tous les deux sur un même niveau de culpabilité et de ruine totale. Les trois grands faits dont ce verset parle ont déjà été placés devant nous au chapitre 1. La promesse en Christ comprend toutes les bénédictions développées dans les sept premiers versets de ce chapitre. L'héritage nous est présenté dans les versets 8 à 21 et la vérité du seul corps dans les versets 22 et 23. Versets 7 et 8. La vérité révélée à Paul est annoncée par lui. Citation de l'Écriture. L'Évangile, duquel je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné selon l'opération de sa puissance. À moi, qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ. Fin de citation. Non seulement le mystère a été révélé à Paul, mais Paul a aussi été fait serviteur de la vérité. Le mystère avait été aussi révélé aux autres apôtres, verset 5. Mais à Paul a été confié le service spécial d'annoncer cette vérité aux saints. Ainsi, c'est seulement dans les épîtres de Paul que nous trouvons la présentation du mystère. La grâce de Dieu avait donné ce service à l'apôtre, la puissance de Dieu le rendait capable d'exercer son don de grâce. Les dons de Dieu ne peuvent être employés que dans la puissance de Dieu. L'apôtre nous dit encore l'effet que cette grande vérité a eu sur lui. En présence de la grandeur de la grâce de Dieu, il voit qu'il est le premier des pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15. En présence de l'immense étendue de bénédictions découvertes par le mystère, il se sent moins que le moindre de tous les saints. Plus les gloires qui sont découvertes à notre vision sont grandes, plus nous devenons petits à nos propres yeux. L'homme qui est entré le plus profondément dans ce grand mystère, dans toute son immense étendue, a été celui qui a reconnu qu'il était moins que le moindre de tous les saints. Pour accomplir son ministère, l'apôtre ne proclamait pas seulement la ruine irrémédiable de l'homme, mais les richesses insondables du Christ, des richesses dépassant toute estimation humaine, apportant des bénédictions illimitées. Versets 9 à 11. Le but de la proclamation de la vérité. Citation de l'Écriture. Et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée, selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus notre Seigneur. Fin de citation. La prédication de l'Évangile était en vue de la seconde partie du service de l'apôtre. Mettre en lumière devant tous le mystère. Montrer à tous les hommes comment le conseil de Dieu d'éternité en éternité est réalisé dans le temps par la formation de l'Assemblée sur la terre et révéler ainsi ce qui jusqu'alors avait été caché en Dieu dès la fondation du monde. De plus, Dieu ne veut pas seulement que tous les hommes soient éclairés quant à la formation de l'Assemblée sur la terre, mais son intention est que, dès maintenant, sa sagesse si diverse soit donnée à connaître à tous les êtres célestes par l'Assemblée. Ces êtres célestes avaient vu la création sortir bonne de la main de Dieu, et en contemplant sa sagesse en création, ils avaient chanté de joie. Maintenant, dans la formation de l'Assemblée, ils voient la sagesse si diverse de Dieu. La création a été l'expression la plus parfaite de la sagesse créatrice, mais dans la formation de l'Assemblée, la sagesse de Dieu est manifestée sous tous ses aspects. Avant que l'Assemblée puisse être formée, la gloire de Dieu devait être revendiquée, les besoins de l'homme satisfaits, le péché ôté, la mort abolie et la puissance de Satan annulée. La barrière entre juifs et gentils devait être enlevée, les cieux ouverts, Christ assis comme homme dans la gloire, le Saint-Esprit descendu sur la terre et l'Évangile proclamé. Tout cela, et davantage, est inclus dans la formation de l'Assemblée. Ces buts variés ne pouvaient être atteints que par la sagesse si diverse de Dieu. La sagesse déployée non seulement dans une direction, mais dans toutes les directions. Que l'Assemblée ait failli à ses responsabilités n'a pas non plus changé le fait que, par l'Assemblée, les anges apprennent la sagesse de Dieu. Au contraire, cela ne fait que rendre plus manifeste cette sagesse merveilleuse qui, s'élevant au-dessus des manquements de l'homme, surmontant tout obstacle, introduit enfin l'assemblée dans la gloire, selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus notre Seigneur. Versets 12 et 13. L'effet pratique de la proclamation de la vérité. Citation de l'Écriture. Notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès en confiance par la foi en lui. C'est pourquoi je vous prie de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions pour vous, ce qui est votre gloire. Fin de citation. L'apôtre se détourne de la révélation du mystère pour décrire en quelques mots son effet pratique. Ces merveilles ne sont pas placées devant nos yeux simplement pour être admirées, aussi admirables soient-elles. Le mystère a également un côté très pratique lorsqu'il est bien compris et appliqué. Agir dans la lumière de la vérité nous mettra à l'aise dans le monde de Dieu, mais nous rejettera du monde de l'homme. Tel l'aveugle de Jean IX qui, rejeté par le monde religieux, se trouve dans la présence du Fils de Dieu, ainsi l'apôtre, emprisonné par l'homme sur la terre, a accès dans la présence du Père dans les cieux. Le Christ Jésus, celui par qui tous ses propos éternels seront accomplis, est celui par lequel nous avons accès en confiance auprès du Père. Si cette grande vérité nous donne hardiesse et nous met à l'aise dans la présence du Père, elle conduira à des afflictions dans le monde. Paul l'a expérimenté, mais il dit « Ne perdez pas courage à cause de mes afflictions. » Accepter la vérité du mystère, marcher dans sa lumière, nous placera tout de suite hors du monde religieux. Si nous agissons selon cette vérité, nous rencontrerons aussitôt l'opposition de la profession chrétienne. Ce sera, comme ce fut le cas pour Paul, un conflit continuel et particulièrement avec tout ce qui judaïse. De l'opposition, il y en aura nécessairement, car ces grandes vérités minent entièrement l'organisation mondaine de tout système religieux érigé par l'homme. Est-ce que la vérité du mystère que Paul cherchait à faire connaître à tout homme est proclamée du haut des chairs de la chrétienté, dans les conventions religieuses ou même dans les cercles évangéliques? Est-ce que la vérité du mystère qui implique la ruine totale de l'homme, le rejet complet de Christ par le monde, la séance de Christ dans la gloire, la présence du Saint-Esprit sur la terre, la séparation du croyant du monde et l'appel céleste des saints, est-ce que cette grande vérité est proclamée ou mise en pratique dans les églises nationales ou les dénominations religieuses de la chrétienté? Hélas, elle n'a pas de place dans leur credo, leur prière ou leur enseignement. Pis encore, elle est reniée par leur constitution même, leur enseignement et leur pratique. Versets 14 à 21. La prière que ces vérités soient réalisées dans le croyant. Citation de l'Écriture. C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui gloire dans l'assemblée dans le Christ Jésus pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Fin de citation. Les grandes vérités développées dans ces chapitres conduisent tout naturellement à la seconde prière de l'apôtre. Dans le deuxième chapitre de l'épître, l'apôtre a développé la grande vérité que les croyants d'entre les juifs et d'entre les gentils ont été édifiés ensemble pour être l'habitation de Dieu. Dans le troisième chapitre, l'apôtre a présenté la vérité du mystère, montrant que les croyants, pris aussi d'entre les juifs et d'entre les gentils, sont amenés sur un terrain entièrement nouveau pour être un même corps en Christ. Nous apprenons ensuite que ce mystère a été donné à connaître afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant manifestée, selon le propos des siècles, lequel Dieu a établi dans le Christ Jésus notre Seigneur. Versets 10 et 11. Avec ce grand but devant lui, l'apôtre s'adresse par la prière au Père pour que les saints soient dans une bonne condition spirituelle afin d'entrer dans la plénitude de Dieu. Pour produire cette condition spirituelle dans les saints, nous voyons, dans le cours de la prière, que chacune des personnes divines est engagée envers les saints. Le Père est la source de toute bénédiction. L'Esprit nous fortifie afin que le Christ habite en nous pour nous remplir de la plénitude de Dieu, afin que Dieu soit glorifié en étant manifesté dans les saints, maintenant et pour l'éternité. Verset 14. La prière ayant en vue le propos éternel, lequel a été établi dans le Christ Jésus, elle est adressée au Père, qui est la source de ses conseils éternels. Pour cette même raison, il n'y a aucune mention de la mort ni de la résurrection dans la prière. Les conseils éternels étaient tous établis avant que la mort n'intervienne, et l'accomplissement final de ces conseils, objet de cette prière, sera dans une scène où la mort n'entrera jamais. Verset 15. Ayant cette nouvelle scène de gloire devant nous, il nous est dit que dans ce monde de bénédiction à venir, toute famille dans les cieux et sur la terre sera nommée du Père. Dans la première création, tous les animaux défilèrent devant Adam, qui leur donna un nom établissant les caractères distinctifs qui seraient manifestés dans chaque famille. De même, en relation avec les conseils éternels, pour la nouvelle création, toute famille dans les cieux et sur la terre, les êtres angéliques, l'assemblée dans les cieux et les saints sur la terre, sera nommée du Père, et ainsi chaque famille a son caractère distinctif selon les conseils éternels du Père. La prière a donc pour objet tout ce qui sera amené à la lumière dans les âges éternels, selon les conseils de Dieu avant la fondation du monde, une scène dans laquelle le Père est la source de tout, le Fils le centre de tout, et où toute famille, dans les cieux et sur la terre, manifeste quelque gloire spéciale du Père. Verset 16. La première requête est que le Père nous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur. L'apôtre ne dit pas « selon les richesses de sa grâce », comme dans le chapitre 1, verset 7, mais « selon les richesses de sa gloire », parce que la prière n'est pas en relation avec la satisfaction de nos besoins, mais plutôt avec l'accomplissement des conseils du cœur du Père. Dans la prière du chapitre 1, la requête est que nous connaissions la puissance de Dieu envers nous. Ici, que nous connaissions la puissance en nous pour nous fortifier quant à l'homme intérieur. L'homme extérieur est l'homme visible, naturel, par lequel nous sommes en contact avec les choses de ce monde. L'homme intérieur est l'homme invisible et spirituel, formé par l'œuvre de Christ en nous et par lequel nous sommes en relation avec les choses invisibles et éternelles. De même que l'homme extérieur doit être fortifié par des choses matérielles de cette vie, l'homme intérieur a besoin d'être fortifié par l'Esprit pour entrer dans les bénédictions spirituelles du monde nouveau des conseils de Dieu. Verset 17. La deuxième requête est que le Christ habite par la foi dans nos cœurs. Elle résulte de la première, car ce n'est que si nous sommes fortifiés par l'Esprit que Christ habitera dans nos cœurs par la foi. L'effet de l'Esprit, qui est venu d'auprès du Père, opérant dans notre âme, sera de nous remplir des pensées du Père à l'égard de Christ, de nous faire penser au Fils avec le Père. La requête n'est pas que nous soyons fortifiés en puissance pour accomplir quelque miracle ou pour entreprendre quelque tâche ardue, mais qu'une condition spirituelle soit opérée dans notre âme par Christ demeurant dans notre cœur par la foi. La puissance du monde autour de nous, de la chair en nous et du diable contre nous, est si grande que Christ ne pourra avoir sa vraie place dans notre cœur que dans la mesure où nous serons fortifiés par l'Esprit quant à l'homme intérieur. De plus, l'apôtre demande que le Christ habite dans nos cœurs. Nous ne devons pas le traiter comme un visiteur que nous aurions à recevoir en une occasion spéciale, mais comme quelqu'un qui a une place permanente dans notre cœur. Cela ne peut être que par la foi, car la foi regarde à Christ, et dans la mesure où il sera devant nous comme objet, il aura une habitation dans nos cœurs. Celui qui est le centre de tous les conseils de Dieu deviendra aussi le centre de nos pensées. Comme un autre l'a dit, l'objet suprême de Dieu devient notre objet suprême. Quel témoin pour Dieu ne serions-nous pas tous si nos vies étaient gouvernées par un seul objet, Christ? Trop souvent nous ressemblons à la Marthe d'autrefois, distraite par beaucoup de services et en soucis et tourmentée de beaucoup de choses. Une seule est nécessaire, avoir Christ comme l'unique objet de nos vies. Alors le service et tout le reste suivra sans distraction. Puissions-nous, comme Marie, choisir cette bonne part. Le résultat de l'habitation de Christ dans le cœur est de nous enraciner et de nous fonder dans l'amour. Si Christ, celui en qui et par qui tout l'amour du Père a été révélé, habite dans nos cœurs, il les remplira certainement de la connaissance et de la jouissance de l'amour divin. Verset 18. L'habitation de Christ dans le cœur ouvre le chemin à la troisième grande requête, que nous soyons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur. Dieu nous enseigne par nos affections, de sorte que pour arriver à cette compréhension, il faut non seulement la foi, mais il faut être enraciné et fondé dans l'amour. Par l'œuvre de l'Esprit, Christ habite dans notre cœur par la foi. Y habitant par la foi, il remplit notre cœur d'amour, et l'amour nous prépare à comprendre. De plus, cet amour nous amène à embrasser tous les saints, car plus nous jouirons de l'amour de Christ, plus notre cœur s'ouvrira à tous ceux qui sont aimés de Christ. Puis l'apôtre désire que nous soyons capables de comprendre quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur. Il semblerait que ce soit toute l'étendue du propos éternel de Dieu, auquel il a déjà été fait allusion au verset 11. Ce propos éternel embrasse, dans sa largeur, tous les saints, dans sa longueur, il s'étend au siècle des siècles, dans sa profondeur, il descend jusqu'à nous, dans tous nos besoins, et dans sa hauteur, il nous introduit dans une scène de gloire. Verset 19. Toute cette scène de bénédiction nous est assurée par l'amour du Christ, celui qui a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Aussi, la quatrième requête a pour objet que nous soyons capables de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. C'est un amour qui peut être connu et goûté, et pourtant il dépasse toute connaissance. Si nous ne pouvons pas mesurer la hauteur de la gloire d'où Christ est venu, ni sonder la profondeur des afflictions par lesquelles il a passé, nous pouvons encore moins mesurer l'amour qui a opéré pour nous, qui embrasse l'immense armée des rachetés, petits et grands, qui prend soin de nous pendant notre passage dans le temps, et qui va nous introduire dans la demeure de l'amour pour y être avec lui et comme lui pour la satisfaction de son cœur. Un tel amour peut être connu, mais reste cependant à toujours un amour qui surpasse toute connaissance. La cinquième requête consiste en ceci, que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est tout ce que Dieu est en tant que révélé et manifesté en Christ. Le Fils a pleinement fait connaître le Père dans son amour et sa sainteté, dans sa grâce et sa vérité. Et l'apôtre désire que nous recevions, dans une pleine mesure, de la plénitude divine, afin qu'elle soit vue dans les saints. Verset 20. La sixième requête formulée est celle-ci, que tout ce que l'apôtre a demandé dans sa prière pour les saints soit opéré en eux par la puissance de Dieu. Certes, Dieu peut faire infiniment pour nous, comme on le dit souvent. Mais ici, où la pensée dominante de toute la prière est la condition spirituelle des saints, ce n'est pas ce que Dieu peut faire pour nous ou envers nous qui est en vue, mais plutôt son pouvoir et son vouloir d'opérer en nous, en réponse à ses requêtes, et de le faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Verset 21. La septième et dernière requête a pour objet la gloire de Dieu dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Chaque requête de cette prière conduit à cette pensée magnifique que, pour toutes les générations du siècle des siècles, les saints manifestent la plénitude de Dieu pour être ainsi à sa gloire. Toute la prière montre clairement quel est le désir de Dieu. Il veut que ce qui sera vrai des saints dans les siècles éternels les caractérise déjà pendant leur passage à travers le temps, que tout ce que Dieu est reluise maintenant dans les siens.